Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Chiasma. On est content de vous accueillir et que vous ayez eu le courage de braver ce froid. On avait commandé du soleil et un temps doux pour ce soir et puis la commande s'est perdue. Mais en tout cas, merci à vous. On est très content de vous accueillir ce soir et d'accueillir pour le 32e lundi de fantôme Alex Reynolds. Voilà, qui est notre speaker timide de la soirée, mais il en faut un.
Bonsoir.
Et voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait le principe des lundis de fantôme, je m'approche un peu. Les lundis de fantôme, c'est un programme qu'on mène maintenant depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et qui est dédié à des formes qui sont en cours et au travail, ou en tout cas de suivre la trajectoire d'un travail. Là, ce soir, on va voir plusieurs films courts d'Alex Reynolds qui mène à un projet de film plus long. Donc en général, ce qu'on met en partage là, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Ça peut être de plusieurs manières différentes. Là, ce soir, c'est vraiment un chemin vers un long métrage. Et l'idée, c'est de partager avec vous un processus, quelque chose qui est en train de naître avec des questions et des doutes. Alors ce soir, l'invitation que moi, j'avais faite à Alex, c'était d'être en conversation avec la commissaire d'exposition Anna Manubens, qui est un peu restée bloquée à Barcelone, faute d'avion. Voilà, c'était aussi un principe d'inviter à la fois Alex et à la fois Anna, qui ont travaillé très étroitement ces dernières années entre curatrice et cinéaste sur ces projets. Donc on a décidé de faire une chose un tout petit peu inédite par rapport à d'habitude. On aura Anna Manubens sur Skype tout à l'heure, parce que quand même on l'a un peu perdu en route, mais on voulait quand même l'avoir un petit peu avec nous. Donc on va à la fois voir des films et à la fois Alex sera en dialogue avec Anna et avec vous ce soir, donc avec un direct, comme on disait à la télévision à l'époque, depuis Barcelone. Parce que c'était quand même important, je crois, dans la présentation de ce travail, de montrer comment il y a un travail qui se fait en duo et sur quoi il porte, quoi, sur quoi porte ce dialogue. Tu veux nous dire, Alex, peut-être quelque chose sur ce qu'on va voir ce soir ?
Oui, mais tu traduis pour moi ? Je peux essayer en français, mais
il y a des gens qui parlent très bien français. Vous savez, le problème, c'est qu'ils ont la crainte du jugement des Français. Donc là, il n'y a aucun souci. Et bienvenue à l'espace Chiasma, Alex.
Et
ce niveau de français est magnifique. On pourra parler en anglais ou en espagnol au besoin, mais en tout cas, on commence en français.
OK. Le film qu'on va montrer maintenant s'appelle « Cette porte, cette fenêtre ». C'est mon dernier film et c'est un film qui isole un élément qui va être dans le long métrage, qui est le rythme et la communication à travers du rythme. Donc c'est comme un petit expériment avec deux performeurs, un qui joue la batterie et l'autre qui est un chorégraphe. J'ai fait un double portrait d'eux. Et ils sont dans le même espace, mais ils ne sont pas dans le même espace en même temps. Ils s'écoutent et ils réagissent et ils s'interrompent à travers le son.
Voilà. C'est un premier pas vers un film à venir. On va en voir deux ce soir. On commence par une première projection et puis on sera après aussi avec Anna et avec Alex pour en discuter.
Sienta que falta una silla, pero no mucho más.
De repente está mucho más tarde.
A lo mejor viendo las marcas pueda decir.
De repente despertarnos mucho más temprano.
Pero yo no voy a investigar mucho más.
¿Quedarnos en el mismo ritmo?
Bonsoir à tous. Alors, on va se connecter avec Anna, sinon peut-être que le temps que Alex nous rejoigne.
Hola.
Hola.
Oui.
Hola Anna, tu nous entends?
Je t'entends très bien.
Ah, super.
Donc, on parlait tout à l'heure, parce que j'ai perdu un vol. Enfin, je ne l'ai pas perdu, on me l'a perdu. Et on disait que de produire, c'est de faire face à des accidents. Et cet accident fait que maintenant, je me retrouve à parler avec Alex, comme s'il n'y avait personne d'autre. Et qu'il y a quelque chose dans notre rapport de production qui est de l'ordre de l'intimité. Je pense que j'ai accepté de tout d'un coup être sur un Skype et de ne voir qu'elle et de me voir même moi là, in the background. Parce que je pense que ça parle aussi de la façon dont s'est construite notre relation de travail. Et par rapport à cette intimité, peut-être que je sais que vous venez voir d'un film, on va en parler tout de suite, mais j'en profite pour demander à Alex, parce que c'est une question qu'on s'est posée au début. Comment naviguer le rapport entre ce qui est de l'ordre de l'intimité et ce qui est de l'ordre professionnel? Et parce que on était toutes les deux très méfiantes de relations de production qu'on pouvait observer dans d'autres artistes producteurs, artistes curateurs, où le producteur prenait une parole très soit affective, soit intime, soit même un peu maternelle par rapport à l'artiste, où il disait non, c'est vraiment un rapport personnel et c'est seulement à partir de cette intensité qu'on peut construire le reste qui demande énormément d'efforts. Et c'est paradoxal parce qu'Alex et moi, on se met à travailler ensemble sur la base d'un rapport d'amitié. Mais dès qu'on commence à travailler, on se dit on va essayer de garder le sang-froid et de ne pas laisser le rapport d'intimité ou d'amitié travailler pour nous. Donc, je voulais te poser la question, Alex. Comment tu vis, toi, ce rapport entre le lien de production et le lien d'amitié? Et comment on travaille avec et comment ça aide ou parfois ça aide pas ou...
J'essaie. Je trouve que c'est difficile. Parfois, ça aide parce que je crois que le travail qu'on fait, c'est très personnel. Et c'est, pour moi, souvent très lié avec les choses qui passent dans ma vie. Donc, si tu as une relation d'amitié, l'autre personne comprend bien pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais c'est difficile parce que je crois que l'urgence que j'ai quand je travaille, c'est difficile qu'une personne qui travaille avec moi l'ait aussi.
Et quand tu parles d'urgence, tu parles de quoi
précisément? Je parle de... Quand tu as une relation d'amitié, Anna et moi, il fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble. Et le long métrage, par exemple, il est arrivé dans un moment dans notre vie qui... nous avons... we had... nous avons eu des choses qui ont
déstabilisé
notre vie. Donc, parfois, c'était très difficile pour Anna de travailler, de continuer les rapports de travail. Et c'est moi qui dois le faire toute seule ou que je dois attendre. Mais on l'a fait. Mais c'est difficile d'avoir la patience, parce que je crois que chaque artiste donne beaucoup d'importance au travail. Et c'est difficile de... Parfois, je crois, pour un artiste, de prioriser la vie avant le travail. Ça, c'est un... Mais je crois qu'on réfléchit beaucoup, souvent, sur ça, Anna et moi, sur quelle est la priorité dans ta vie. Et pour moi, c'est difficile parce que ma vie et mon travail, c'est très difficile à séparer.
Mais dans le
Est-ce
film
que ça répond à la question un
peu? Si, ça répond à la question.
Dans le film qu'on vient de voir, Stapletas et Staventanas, se pose cette question des polyrythmies, en tout cas de la nécessité ce que moi j'appelle un accord. Et, et l'accord qui est quelque chose un peu qui est lié à la musique, oui. Et qui n'est peut-être pas la même chose qu'un consensus, puisque le consensus est presque un horizon un peu technique dans une société. Mm-hmm. Je trouve un accord, c'est une chose qui doit toujours être un peu retrouvée, oui. Ou qui n'est jamais définitif.
Oui.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se joue aussi entre vous et qui, je crois, se joue quand on fait quelque chose de ces formes-là avec d'autres personnes. Il faut trouver un accord. Là, il y a ce rapport privilégié que tu as avec Anna.
Oui.
Mais ça va être aussi vrai pour un artiste qui va travailler avec un chef opérateur, du son. Moi, qui travaille avec beaucoup d'artistes, je sais la détestation qu'ils ont de déléguer des choses. On peut le dire comme
ah
ça.
Hein.
Et que du coup, aussi, comment ça, cette chose à la fois qui lâchait quelque chose, mais aussi qui a une espèce d'effet de nouveauté, comment tu le gères? Parce que tu lâches avec Anna des choses, mais tu le lâches aussi avec d'autres collaborateurs.
Oui, je lâche toujours des choses avec des autres parce que je trouve que c'est pour ça que je travaille d'une certaine manière. Je crois que tu lâches aussi quand tu finis un projet et tu le lâches pour les spectateurs. Mais j'ai trouvé intéressant ce que tu dis sur l'idée du consensus. Et pour moi, c'est un concept très, très intéressant et très, très polémique ou compliqué, l'idée du consensus. Et j'aime bien de travailler ce thème-là avec la musique parce que la musique ou l'improvisation entre deux musiciens, ça se fait toujours en présente. Donc ça change toujours. Mmh. Il faut réagir toujours à ce que l'autre joue avec toi. Et donc ce n'est pas une chose de statique. Je crois que quand on assume qu'il y a un consensus qui est statique, c'est toujours il y a toujours de la violence là.
Yes. Anna, tu veux rebondir là-dessus?
Je voulais juste reprendre quelque chose qu'on avait déjà dit dans l'interview que vous avez publiée, mais par rapport au rapport de production et au besoin d'accord ou de consensus. Quand on se met à travailler ensemble, on décide qu'on s'y met à un moment, mais on ne sait pas. Je pense qu'il y a une durée très particulière au rapport de production. On me pose souvent la question, quel est ton rôle? D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais poser à Alex. Ça venait à la fin, mais je vais la poser maintenant parce que ça vient dans la conversation. Mais quel est ton rôle? Est-ce que tu es commissaire? Est-ce que tu es producteur? Et je pense que la principale distinction entre un commissariat et une production, c'est la présence d'un horizon. Tu prépares une expo, tu as un espace et un moment pour accueillir ce que tu fais. Et quand tu te lances dans une production, tu démarres, mais tu ne sais pas vraiment pour combien de temps. Et c'est cet engagement dans la durée qui fait que la question du rythme et du raccord et d'essayer de se synchroniser malgré tous les imprévus, parce qu'en plus, y a une question très pratique, c'est qu'on n'arrive pas, dans un rapport de production, à vivre de ce qu'on fait, économiquement parlant. C'est quelque chose un peu de base. Donc il faut que, d'une certaine manière, on fasse rentrer Alex et moi, ou enfin, n'importe qui est dans ce rapport-là, d'autres choses qui nous permettent de vivre, en fait. Et donc, il faut laisser entrer tous ces éléments pendant qu'on prend soin du rythme l'un de l'autre. Et cette question du rythme est très particulière sur la durée à la question de la production. Donc ça, je rebondissais sur ce que vous disiez avant. Et après, j'ai une question pour Alex, parce qu'on me demande très souvent qu'est-ce que tu fais quand tu travailles avec Alex. Ou en général, sur ma mère, elle ne sait jamais ce que je fais. Alors, je me suis dit, je vais poser la question à Alex. Qu'est-ce que je fais?
No entiendo la pregunta.
¿Qué hago yo?
¿En qué sentido?
Pues, que, ¿en qué consiste mi trabajo contigo?
Ah.
O sea, c'est une question que je me pose et je me suis permis la fantasía de la poser à toi. Enfin, ou qu'on me pose aussi.
Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles avec moi?
Oui.
C'est ça la question. Tu ne sais pas?
Si, je sais, mais normalement, c'est une... Il y a plein de virgules. Je fais ça et ça et ça et ça.
Mm-hmm. Okay.
Et c'est pas un rôle qui est un mot qui donne immédiatement à lire ce qu'on fait. Si t'es commissaire, on l'imagine assez bien, pas toujours, mais ce qu'on fait. Après, producteur cinéma aussi, mais quand tu fais un accompagnement comme ça entre deux, qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps-là, ça... Donc voilà, je voulais te poser la question.
C'est étrange parce que c'est comme décrire ce que tu as déjà fait, non? C'est, on pense ensemble, on écrit ensemble, on cherche de l'argent pour faire le film, on essaie de communiquer le film, et ça, je ne fais pas si bien, et ça, tu le fais très bien, de communiquer le film à des autres pour faire qu'ils... Ils veulent join.
Ils veulent nous rejoindre, oui.
Nous rejoindre dans la production du film. Et après, dans des moments de tournage, c'est plus pratique. Il y a des choses de la production, de la logistique. Et dans les tournages, t'es là un peu pour... C'est un rôle plus wide, broad.
Et plus large.
Plus large. Et, c'est toi qui as la vision la plus large sur les films parce que c'est toi qui as l'accompagné du début. Et, et quand même, dans le premier tournage de long métrage, Anna a fait l'art et l'histoire.
Costumes.
Il n'a pas fait les costumes, mais il a organisé les costumes et tout ça. Et il a...
J'ai failli faire la neige, mais il a neigé. Donc, il n'y a pas eu besoin.
Oui, beaucoup de choses différentes, en fait. Mais tous les deux ont fait beaucoup de choses différentes pour que les films, ça marche.
Moi, je voulais peut-être ajouter quelque chose qui est un commentaire plus qu'une question, parce que c'est à la fois une question. Qui est peut-être lié à ce que tu dis, parce que l'usage du terme production, évidemment, pour des gens qui sont producteurs de cinéma ou qui, comme moi, gagnent leur vie en produisant des artistes et gagnent bien leur vie, je dirais. En fait, on est aussi là, potentiellement, pour gagner sa vie. Mais la chose qui m'intéressait plus, c'était plutôt une chose qui est liée à l'histoire, une certaine partie de l'histoire de l'art. Et une chose qui est quand même assez importante dans la pratique des artistes, c'est la question de l'autonomie. Et j'ai l'impression que là, tu parles d'un endroit qui est vraiment, pour moi, extrêmement épineux, en réalité, qui est que les artistes qui font des films, en fait, ils perdent énormément de leur autonomie. Parce qu'économiquement, faire des films, c'est une chose qui est extrêmement difficile de faire tout seul. Et souvent, moi, je m'étonne, alors je suis peut-être l'avocat du diable, parce que j'ai quelqu'un qui produit essentiellement des artistes qui font des films. Je me demande pourquoi on passe d'une pratique où on a une grande autonomie, une grande maîtrise, à une pratique où on a beaucoup moins et on se met soi-même en difficulté et en dépendance. C'est une chose qui, à titre personnel, moi, je ne ferais pas. Et que je suis quelqu'un qui écrit et je trouve que c'est une pratique très autonome. Et je trouve ça extrêmement difficile d'aller vers un cinéma où on en perd. Alors, il y a des cinémas où on en perd peu. Hein. Il y a des gens ici qui tentent d'en perdre peu. Mais je trouve que c'est l'un des enjeux un peu bizarres du projet de faire des films comme artiste. C'est que par définition, il y a une forte autonomie de la pratique, même si elle est fragile, mais au moins il y a l'autonomie. Alors que la production, on le vit, je pense, Anna, comme moi, on est au milieu de choses où il y a quand même vraiment des contraintes matérielles qui font perdre en autonomie, qui rallongent le temps. Fabriquer des films, c'est toujours hyper long. Mais ça, c'est un truc, il faut le dire. Si tu le dis le premier jour, les gens, ils partent en courant et peut-être c'est bien. Peut-être qu'il faudrait vraiment oser le dire, ça va être très long. Là, on est là pour 4 ans. Et si tu le dis le premier jour, les gens disent non, 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 non. Puis au bout de 2 ans, ils l'envisagent. Au bout de 3, ils s'en doutent. Et au bout de 4, ils disent ah ouais, non, non, c'est vrai que ça fait 4 ans, quoi. Et en fait, ça fait toujours cette durée-là. Et on n'ose jamais vraiment le dire au début. C'est comme un peu dans une histoire d'amour. On déballe pas le pire truc au début. On dit pas, en fait, ça va être hyper long, quoi. Et pourtant, c'est un truc qui, avec l'expérience, tu as envie de le dire dès le début parce que c'est la stricte vérité. Mais moi, je voulais poser cette question-là de l'autonomie parce que je pense que les artistes, par rapport aux cinéastes, tentent de fabriquer des mondes entièrement. Alors, comment on accepte de sortir de cette espèce de geste pour aller vers des choses où on maîtrise moins ? Ou est-ce qu'on ne l'accepte pas, peut-être, hein ?
Ça dépend du film, je pense aussi. Parce que les deux films qu'on montre ce soir, je les ai faits très vite et avec beaucoup d'autonomie. Ce film-là qu'on a vu maintenant, c'est, on l'a fait en deux mois. Et Vernievé, je l'ai fait chez moi avec mes colocs, en fait.
C'est de ça que tu parles, justement. Est-ce qu'il y a besoin en chemin d'avoir des espèces de poches, comme on va en voir ce soir, qui permettent de régénérer un peu le désir du film ?
Oui, sinon c'est impossible pour moi. Mais quand même, cette idée de l'autonomie et du contrôle, je crois que le problème là, c'est le contrôle. Et pour moi, quand je contrôle tout, c'est un peu mort, ce que je fais. En fait, quand je travaille dans une galerie... souvent, j'ai travaillé avec la seule personne qui travaille là-bas et qui est vivant, parce qu'un espace blanc, vide, ce n'est pas très intéressant pour moi. Mais j'aime bien travailler en film et avec les autres, parce que j'ai dit dans l'entretien ici, quand j'ai commencé à jouer de la musique avec un groupe, j'ai découvert comment c'est travailler avec les autres, et, de ne pas contrôler toujours ce que tu fais. Et comme c'est toujours plus riche et surprenant et plus vif, c'est aussi on retourne à cette idée de consensus. Si tu connais bien une personne, c'est un consensus qui refreshes itself.
Ouais, qui se rafraîchit et qui se.
Oui, dans le temps. Mais c'est aussi vrai que tu dois très bien choisir avec qui tu travailles. Parce que, par exemple, avec Alma et Nilo, j'ai travaillé avec eux. Avec Nilo, j'ai beaucoup travaillé et il est une personne qui me connaît très bien. Je lui connais très bien. Mais il me surprend toujours. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais je sais que je vais aimer toujours ce qu'il va faire. Donc je descends des structures, une structure dans laquelle il peut jouer ou il peut me surprendre. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus riche que faire quelque chose juste moi dans une chambre. Et c'est aussi... accepter les choses qui sont vives et qui ne sont pas comme toi. Ou qui sont...
Et accepter le temps aussi, alors.
Ah, le temps, ça, c'est l'autre thème. Oui, le temps avec un projet très long, oui, je trouve ça très difficile. Ça, c'est un exercice de patience très, 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 très fort. Surtout pour quelqu'un comme moi, que je ne suis pas si patiente, en vérité.
Mais je pense qu'il y a un des moyens, et je pense que c'est à ça que tu faisais référence, Olivier, un des moyens d'endurer la durée, c'est de justement trouver ou d'avoir les moyens de faire quelque chose de plus autonome qui ponctue l'attente du, en l'occurrence, dans ton cas, Alex, tu prépares un long métrage, et Esta Puerta, Esta Ventana est un moment qui te... Et c'est intéressant parce que c'est un moment qui est à la fois un temps pour toi, un espèce de field research ou de test de quelque chose de très spécifique que tu veux développer pour le long métrage, mais en même temps c'est issu de quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est-à-dire que tu commences à imaginer les acteurs pour ton film. Nilo, comme tu le connais, c'est un personnage, le personnage de ton long métrage, il est un peu créé pour lui, d'une certaine façon. On était à la recherche du personnage féminin du film, et c'est là qu'on pense à Alma, que tu ne connaissais pas avant personnellement, et c'est là qu'Alma apparaît et elle ajoute des éléments, et en partie parce que tu veux tester certaines choses en rapport au son, à l'utilisation du son et du rythme, et en partie parce que ces deux personnages t'apparaissent comme ayant un rapport suffisamment intéressant entre eux, que ce temps différent, beaucoup plus autonome et beaucoup plus concentré, s'ouvre et donne lieu à Esta Puerta, Esta Ventana.
Mais j'ai l'impression aussi, au-delà des choses très spécifiques, parce qu'on va aussi voir Vernievé tout à l'heure, où là, vraiment, avec Alex, s'articulent presque des possibilités du film et, comme tu dis, des tentatives, des tests. J'ai l'impression aussi que, de manière assez expérimentale, dans cette dernière décennie notamment, qu'au fond, c'est inventé, et à cause de contraintes extrêmement matérielles au départ, mais c'est inventé une manière de fabriquer des longs-métrages par les artistes, qui est une manière qui va être ponctuée par des par des formes non pas intermédiaires parce qu'elles sont autonomes, mais par des espèces de dispositifs possibles, comme moi je vois avec des gens que j'ai suivis sur d'assez longues années, le film dans plusieurs de ses possibilités, soit une mise en espace différente, soit des fragments redéveloppés, et avant c'était presque quelque part pour certains des incidents, et je trouve que c'est devenu une espèce de constante, comme si les artistes réinventaient le temps du long métrage. Parce qu'il y a une impatience. Moi, à chaque fois, on me demande qu'est-ce qu'il y a de particulier à produire des artistes dans les festivals. Je dis, c'est l'impatience. Ce qui est particulier avec les artistes, c'est qu'ils sont impatients. C'est un paramètre qu'il faut vraiment intégrer pour produire des artistes. Non, mais c'est un beau paramètre. Moi, je suis quelqu'un d'impatient, donc peut-être je le comprends. Mais c'est très particulier. Des cinéastes sont capables de pouvoir écrire un script et d'attendre que le financement arrive pendant 3 ou 4 ans. C'est une autre chose. Là, il n'y a pas ça chez les artistes. Du coup, par accident, en quelque sorte, ou par conséquence, un peu. Il c'est en train de se produire, je trouve, une manière de faire des films plus longs à faire, un peu spécifique, mais qui devient vraiment une manière. J'ai l'impression que ce n'est plus simplement un accident. C'est qu'à l'arrivée, on se retrouve avec 3-4 films, plus petits, plus grands, des expositions, des dispositifs, des versions installées, qui sont toutes des possibilités du film, jusqu'à un film monobande, qui finit pas par être pas simplement l'objet, le fameux Graal, mais à la fin, il a une espèce de famille, j'ai l'impression. C'est comme ça que je ressens aussi avec Alex.
Oui, je crois que quand tu es obsédé, on dit ça, obsédé, oui. Tu es obsédé avec ton film, tu prends n'importe quelle excuse pour le travailler sur le film, ou de tester quelque chose du film, ou d'imaginer les films, je ne sais pas. Et aussi pour apprendre quelque chose, parce que je ne suis pas allée à une école du film. Donc, j'ai toujours un petit complexe que je ne sais pas comment on fait un film. Donc, tu inventes des manières pour travailler avec chaque petit film ou chaque petit son. I work with sound as well. Tu essaies d'apprendre quelque chose que tu ne savais pas avant. Ça peut être quelque chose du son, de comment écrire un scénario, comment travailler avec des acteurs. Donc, ce sont des petits tests qui vont vers l'autre film, mais qui sont à la fin des films en soi-même.
Ce sont aussi des occasions pour nous de parler de ce qui autrement est toujours très abstrait. C'est-à-dire que tu prépares un film, tu en parles, tu écris, tu utilises des images qui très souvent au départ ne sont même pas tes images. Tu prends des références ici et là, donc c'est un peu. Et c'est par le biais de ces projets intermédiaires aussi qu'on réussit au fur et à mesure à parler, même si le film n'est toujours pas là, à pouvoir partager, à pouvoir même soumettre au public. Je pense que pour toi, quand tu présentes Esta Puerta de esta Ventana ou Ver Nieve, de voir comment ça fonctionne, de voir comment les gens réagissent, ça donne confiance aussi et ça permet de prendre des décisions à venir. Non, je voulais te poser une question parce que parce que quand ça fait longtemps que tu parles avec quelqu'un, il y a un peu des effets d'intensité par rapport aux références, aux choses que tu lis. Et puis, ils ont des moments, on en parle pendant 2 mois, et puis, pop, ça disparaît un peu plus. Et en réfléchissant à cet entretien, je me suis rappelée de... Parce qu'on ne l'a pas du tout repris quand on a tourné Esta Puerta, Esta Ventana. L'idée de l'intrusion, tu vois, comme tu en parlais, quand tu étais dans l'univers Claire Denis, Jean-Luc Nancy, tout ça... On l'a eu il y a peut-être 1 an et demi. Puis après, 1 an et demi plus tard, on se retrouve à faire ce film. Mais ce n'est plus du tout dans les références du moment. D'ailleurs, c'est vrai que ton travail, quand il s'explique, quand tu en parles, tu n'en parles jamais par rapport à des références, je veux dire, académiques, ou tu en parles autrement. Mais je voulais te reposer la question par rapport à... Parce que je crois que l'intrusion est un élément dans ton travail qui est assez horizontal, qui est assez transversal. Donc, je voulais te poser la question par rapport au film et au film Esta Puerta et au film à venir en termes d'intrusion et d'intrus et de...
Si le thème reste, s'il est encore là
Comment il évolue, comment tu gardes un thème aussi longtemps, comment tu y penses, est-ce que tu y penses plus du tout par rapport à ces textes-là, est-ce que...
Si. Je ne sais pas où commencer ça. Je crois que l'intrusion, elle est très présente dans esta porte, esta puerta, esta ventana. Mais c'est une intrusion sonore. Mm-hmm. Parce qu'avec le long métrage, on a beaucoup parlé et pensé sur l'idée de l'hospitalité. Donc, l'hôte, hostage.
Peut-être que tu peux en dire un peu plus de ce film à venir, parce que vous êtes tout à fait au courant de ce film, moi aussi, je trouve. Mais peut-être que pour le public, c'est bien en quelques mots de donner un peu la... Comment dire la...
Ça, on a le fait mieux.
Ouais, c'est... Non, mais c'est pas un pitch, mais juste un peu qu'on se dise, oui. Voilà, vers quel... Qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Vous avez filmé, en fait, il y a quelques semaines de ça, de la neige, qui est un bout du film à venir. Mais peut-être dire juste l'articulation, peut-être, de ce long métrage, très simplement.
Oui, c'est un film qui part d'une recherche sur l'hospitalité, en fait. L'idée d'une hospitalité qui n'est pas conditionnelle, donc qui ne force pas la personne qui arrive chez quelqu'un à changer. Here I need help. Yeah. So you arrive at someone's house and you're not forced to change and become like them or follow their rules.
Yeah, donc on arrive dans un endroit et on n'est pas obligé, en fait, c'est une hospitalité non conditionnelle, ça veut dire qu'on n'est pas forcé de rentrer dans les règles de l'endroit. On peut arriver quelque part, voilà, sans changer sa manière d'être.
Mm-hmm. Voilà. Donc le film part de cette idée-là. Il y a deux personnages dans une maison et la maison appartient à personne, ou rien d'eux. Mm. Pas de...
À aucun des deux, oui.
Aucun des deux. Et on pense, donc ça c'est le point de départ, et après ça on a pensé beaucoup sur l'idée de l'invasion, et je pense souvent à l'idée de l'invasion avec les sons, parce que quand tu travailles avec un film c'est son image, mais avec une image tu peux toujours fermer les yeux, et avec les sons tu n'as pas de, je ne sais pas comment on dit ça.
Tu ne peux pas fermer, ouais, tu n'as pas de paupières.
Tu n'as pas de paupières dans les oreilles. Donc, tu as beaucoup, quand tu écoutes, je ne sais pas, un morceau de Rihanna, ça reste dans ta tête. Peut-être que tu ne l'aimes pas et elle est là pendant toute la journée.
Quand tu n'aimes pas Rihanna ?
Moi, il y a des morceaux que j'aime, les autres qui pas. Et je ne sais pas.
Non, ça va, ça
n'importe
va,
quoi, le morceau. Donc, en anglais, on dit ça earworm. C'est comme un.
Oui, c'est comme un ver.
Oui.
Un ver d'oreille.
Oui, c'est ça. Donc, c'est physiquement quelque chose qui entre dans ton oreille et reste là. Donc, pour moi, c'est très invasif, le son. Ça peut être très invasif. Et ça peut être très bien. Tu danses avec quelqu'un, je fais un rythme, après un peu, peut-être tu fais comme ça aussi, avec les pieds, tu ne penses pas. Mais c'est dans ton corps.
C'est ça.
Et c'est une réaction corporelle que tu fais qui c'est comme un réflexe musical. Donc, dans les films et longs métrages, le son est très important. Et dans les deux personnages s'affectent avec le son et avec les rythmes. Et ils se font mal.
Ils se font mal, ouais.
Oui, à cause de ça. Il y a des accidents.
Et c'est une guerre de territoire, un petit peu.
Ce n'est pas vraiment une guerre, parce qu'une des choses qui m'intéresse, c'est comment on gère les conflits. Et comme la narration, en fait, on dit toujours qu'il n'y a pas du drame s'il n'y a pas du conflit. Donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a un personnage qui refuse d'avoir un conflit ou qu'il ne sait pas comment l'avoir? Donc, ce n'est pas vraiment une guerre. C'est d'autres choses. Ouais.
Si je peux rajouter.
Vas-y,
un
je t'en prie.
Parce que le titre du film, pour l'instant, on verra après, c'est Quisiera nos meus amores, et c'est le nom d'une maison qu'Alex a vue sur une photo. Et je pense que cette question d'hospitalité, et ça rejoint ce que tu disais par rapport au conflit, par rapport à l'utilisation du rythme, je crois que le film se pose aussi la question de ce qui nous fait sentir chez nous en tant que spectateurs lorsqu'on voit un film, notamment par exemple ce rapport au conflit. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a une série de décisions dans ton film qui font qu'on va avoir des attentes particulières qui ne vont pas forcément cumplirse. s'accomplir. Ou je pense qu'il y a la négociation entre les personnages par rapport à leurs conditions de vie et une tension entre le film et les spectateurs aussi par rapport à ce qui est l'habitude ou le chez-moi dans des formes de narration cinématographique.
Après, j'ai l'impression qu'il y a une autre chose qui va se dédoubler avec cette idée de la maison, c'est ton rapport, alors qu'il y a aussi un rapport, je trouve, qui est présent dans la scène du cinéma d'artiste. Les artistes, en fait, ils sont très cinéphiles dans la génération des artistes comme Alex. Souvent, tu vas à des rétrospectives de cinéma un peu exigeants. Moi, je me rappelle, j'étais à Bellatar, par exemple, au Jeu de Paume. Il n'y avait que des artistes, en fait. J'ai l'impression qu'un cinéma qui n'intéresse plus les cinéastes. Mais tu vas voir. Et donc, quand tu vas dire, en fait, qui c'est qui s'intéresse à Godard aujourd'hui? C'est quand même les artistes. Qui c'est qui s'intéresse à Tarkovsky? C'est les artistes. Qui c'est qui s'intéresse à Bellatar? En fait, il y a des trucs qui n'intéressent plus du tout le cinéma, qui intéressent beaucoup les artistes. Et j'ai l'impression que c'est un espèce de jeu, comme à Godard notamment, du film comme une espèce de mécanique dans laquelle on bricole. Et un peu comme l'enfant qui reçoit un jouet et au lieu de jouer avec, il l'ouvre avec un tournevis pour voir comment ça marche. Et finalement, il y a un intérêt pour se dire le film, non pas justement comme une espèce de projection d'un réel, mais directement en fait le film comme un objet dans lequel on va pouvoir faire un ensemble d'opérations. Ce qui a été le propre d'une certaine génération de cinéma, qui a beaucoup disparu du cinéma et qui me semble être très présent dans une génération de cinéastes. Et chez toi, presque l'objet principal, c'est-à-dire le cinéma comme non pas une chose où le film se passe à l'extérieur du cinéma, regarde le cinéma aussi. Comme un espèce d'espace qu'on pourrait parcourir, paramétrer, comme tu dis, monter le son, baisser le son, toucher les personnages. Presque toutes les composantes sont un peu mises au travail, comme un espèce de jeu, comme ça.
Tu veux rebondir sur ça, Alex? Masai Hirao?
Oui, je veux dire aussi que j'adore aussi le film commercial. Donc, je vois Béatar, je vois Chantal Akerman, je vois tout ça, mais j'aime aussi aller voir des films d'action. J'aime le cinéma dans toutes ses facettes.
Ouais.
Peut-être que tu peux dire... parce que je ne sais pas si Olivier t'a présenté comme ça en termes généraux. Mais juste pour ouvrir un peu, parce qu'aujourd'hui, on va voir que des films, on va parler que soit de ces deux films qu'on va voir ou du film qu'on prépare. Mais je pense que c'est important dans ton cas de dire aussi que le cinéma était là comme objet d'étude ou même objet de désir bien avant ou même pendant que tu faisais des films, alors que tu faisais tout autre chose. C'est-à-dire que tu as fait des performances, tu as fait des œuvres sonores. Peut-être que tu peux parler de... Enfin, je pense qu'il y a tout un mouvement autour de cet objet qui prend énormément de forme.
Oui. Au début, j'ai travaillé beaucoup avec du vidéo, mais quand j'ai commencé à essayer de faire un film un peu plus narratif, ça bouge, ça danse. J'avais une grande frustration avec l'image. Mais aussi avec le fait que j'ai vu que je n'ai pas autant de knowledge,
de
connaissances pour faire un film bien et comprendre toutes les décisions qu'on fait quand on filme. Et ça veut dire quelle distance tu prends de l'objet ou la personne qui tu filmes. Il y a beaucoup de décisions qui sont assez aussi politiques, éthiques, quand tu filmes. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire du film et j'ai continué à penser au film. Et j'ai fait ça avec le son, beaucoup avec le son. Et en fait, j'ai fait ça souvent avec des formes qui ne font pas des images. Donc, je n'ai pas filmé pendant 2-3 années. Et j'ai travaillé avec les films dans des autres manières. Et en fait, je regarde ces films-là, qu'il y a des mois que je les regarde pas. Et c'est quand même intéressant qu'il y a beaucoup de... La personne qui est dans l'image écoute et ferme les yeux pour écouter. Donc, c'est comment travailler avec les images et même while keeping,
mais tout en préservant, tout en gardant, tout en conservant.
Oui, en gardant l'écoute, parce que l'image beaucoup de fois fait que tu perds un peu l'écoute.
Ouais, prendre le dessus, tu veux dire.
Oui, et l'écoute pour moi, c'est pas juste l'écoute quand tu écoutes quelque chose, mais c'est aussi, ça veut dire aussi l'attention. Et l'attention de traiter l'autre comme sujet, pas de le regarder comme jamais comme un objet. Et c'est très facile de tomber sur ça quand tu fais un film, je crois. Donc, j'ai fait j'ai répondu avec un petit tour, mais...
Ce que je voulais ajouter peut-être, c'est que du coup, l'une des choses qui va témoigner de cette volonté-là, c'est que je trouve que tu, dans plusieurs de tes films, du coup, le corps est quand même assez largement un instrument comme de musique, par exemple. Il va être producteur du son, et du coup, c'est toujours quand même différent d'entendre un son qui provient d'un corps qu'un son qui serait... dont on ne sait pas d'où il vient, le son est souvent assez situé dans ton travail. Ce n'est pas un son mot.
Oui. Le corps, c'est toujours très important pour moi. En fait, avant, quand je ne faisais pas du film, je faisais du film, mais pas avec des images, j'utilisais beaucoup le corps du spectateur. En fait. Avec mon travail sonore, j'explique un peu un travail, c'est deux voix. Tu écoutes la pièce dans un endroit, et la pièce parle de ce qui se passe dans cet endroit. T'as une voix qui est narrative et qui parle avec ce que tu vois. Et souvent, c'est une personne qui travaille là-bas et toujours dans le même endroit. Et l'autre voix donne des indications du caméra. Donc, c'est, je ne sais pas, traveling jusqu'à la porte à gauche et zoom sur les mains de travailleurs. Donc, je manipule le corps et le regard du spectateur. Comme ça, mais en même temps, il est très conscient de cette manipulation. Donc, il y a beaucoup, souvent, ces deux ou trois points de vue dans le même corps.
Ça veut dire que nous, en tant que spectateurs, c'est nous qui créons le film.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est vous qui créez les images à travers le son. Oui.
Mais ça veut dire que votre fil rouge, votre intérêt pour le film. C'est plus la fabrique que le film lui-même. Le film reste toujours à être créé. Et vous, vous intéressez sur le fil rouge, tous les ingrédients. Parce que j'essaye de... depuis le début, je ne connais pas du tout votre travail. Hein. Donc là, j'étais un peu... vous trois, vous connaissez. Et j'ai dit, mais il parle chinois pour moi. quoi, dans le sens... De quoi qui cause
De qué hablan.
Ah, ok.
Non, mais bon, non, en même temps...
Como de qué están hablando.
Et en même temps, c'est intéressant de juste de laisser venir. Mm-hmm. Et maintenant, ce dont je peux réagir par rapport à ce que j'ai vu, c'est qu'on est obligé de vraiment investir parce qu'on sent que c'est quelque chose qui se fabrique au fur et à mesure de ce qui se passe. Mm-hmm. Et là, je dis, ah oui, c'est le son, c'est-à-dire visualiser le son, d'une certaine manière. Et moi, la partie que j'ai vraiment beaucoup appréciée, c'est quand il y a le dialogue entre les deux, et elle joue avec les cuillères. Et après, ça bascule un langage intérieur entre elle et les cuillères. Et du coup, pour moi, c'est vraiment tout d'un coup une profondeur. C'est-à-dire, on part vraiment dans un autre imaginaire. Et là, j'ai trouvé ça, ça m'a... J'ai dit, ah oui, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Donc, ma question, si ce n'est même pas une question, c'est parce que vous parlez de performance, vous parlez d'autres interventions. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait chercher dans telle ou telle direction? Avec toujours cette idée du film, de la notion de film. Je ne sais pas si c'est pas vraiment une question, mais c'est juste une...
Oui, c'est une question difficile, mais c'est une question. Je crois qu'au début, ma fascination pour le film, c'est toujours pour les films narratifs. C'est sa manière de créer la... Hostia, en francés, esto es muy difícil.
Dime, dime.
Que como espectador, tú te identificas con un personaje, même si je te présente ce personnage-là a toi, tu peux penser qu'il est un assassin, tu voudrais jamais être avec lui dans une chambre. Mais dans le film, c'est toi qui es ce personnage, et c'est bien que tu es ce personnage. Donc ça... C'est une relation avec l'image et ton corps et ton identité que c'est très intéressant pour moi. Ça éclate de certaines manières ton identité. Et c'est pour moi une chose incroyable qui peut faire le film, mais c'est aussi quelque chose de très dangereux. Donc peut-être la fascination là commence là, mais s'ouvre à comment on peut avoir comme spectateur une relation avec un film qui est plus consciente de que tu fabriques le film aussi, avec ton corps, avec ton projection. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, plus ou moins.
Si, c'est très clair. Hein.
Est-ce que je peux en profiter?
Vas-y,
Parce que pour moi, c'est la voix, parce que je ne vois pas la personne, mais la voix disait... que tu laissais le spectateur ou le visiteur de tes expos créer les images. Et je pense que dans Vernieve, qui est le film que vous n'avez pas encore vu, c'est un peu l'inverse qui se produit. C'est quelqu'un qui cherche un film à travers les images. C'est un peu l'inverse et qui après sollicite l'autre pour construire. Et par rapport à la question qu'elle posait, qu'est-ce qui vous anime, et c'est une question que je t'ai posée récemment, c'est qu'est-ce qui te travaille plutôt que ce sur quoi tu travailles, et est-ce qu'une image peut te travailler comme ça, au point où ce film, Vernieve, qui en français le titre veut dire voir de la neige, est-ce qu'il n'y a pas au départ juste une image, juste le désir pour une image ou voilà, c'est pas l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, même avec les films sonores, les pièces sonores, il y a toujours des images et je travaille avec les images. Je ne les fabrique pas, mais je les... I frame them.
Je les encadre.
Oui, je les cadre, mais avec les sons et avec le texte. Mais je pars toujours des images. Et Vernieve, c'est une manière de voir si les images peuvent raconter quelque chose pour soi-même. Dédia, c'est aussi comme ça, un autre film. Et par rapport... Les pièces où je n'ai pas fabriqué des images, c'est les spectateurs qui les créent. Et pour moi, le défi, c'était de faire un film où ça se passe aussi. Dans les films que vous avez vus, parfois, vous voyez quelqu'un qui écoute et vous sentez le son d'un autre corps qui fait du bruit. Donc, tu imagines le corps qui fait du bruit à travers de cette personne qui l'écoute. Pour moi, ça, c'est... C'est quelque chose que je travaille beaucoup dans mes films maintenant. Il y a toujours une personne, mais c'est une personne qui est comme un canal pour une autre personne, pour une autre histoire. La narrative traverse toujours des corps. Et on trouve les narratives à travers des autres corps, des autres personnes.
Peut-être qu'on peut donner, même si c'est un peu un spoiler, parce que vous allez voir le film... Après, mais peut-être donner un peu de contexte, parce qu'on n'a pas l'impression de parler de choses qu'on connaît.
Oui, ce que je disais aussi, c'est qu'on va regarder le film dans quelques minutes. C'était bien de l'introduire et qu'on le regarde, je pense, ouais. Mais il est dur à introduire sans spoiler complètement, Anna, il faut faire un effort.
Non, moi je vais juste dire des choses de backstage. Je me souviens quand Alex travaillait à ce film-là, j'étais passée à Bruxelles, elle avait une très grande table et je ne sais pas combien d'images tu... Parce que ça fait référence à ce que je disais aussi, quand un film se cherche au début, tu n'as même pas tes propres images, tu réfléchis par rapport à des images qui existent déjà. Et donc, je te voyais sur cette table. Je ne sais pas combien d'images tu as imprimées, classées, disposées. Et pour moi, ça évoque très bien cette idée d'essayer de résoudre quelque chose uniquement par rapport aux critères d'images qui parlent, qui se mettent en rapport, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de ce film avant sans le. Mais est-ce qu'on va reparler après ou...
On va reparler un petit peu après. On regarde le film maintenant, sinon on n'aura plus de temps, si tu veux bien.
Ok, vous regardez le film et après on en parle.
On te rappelle. À tout à l'heure.
Tu vas dormir.
Je vais fumer.
Okay. Ciao.
Ciao.
Decide marchar porque se queda solo. Y cuando sale, tú te conviertes en azul porque él sale al anochecer. Y te quedas azul hasta que él llega a la ciudad y ahí terminas. Y te fundes a negro.
Anna pour le mot de la fin, sinon j'espère qu'elle s'est pas endormie peut-être. Hey.
Hello.
On s'était dit que tu étais partie au bar boire un verre sans nous, mais on est revenu quand même.
Non. Mais Alex, elle est partie.
Elle arrive, c'est la fin du film là. On va faire un peu les quelques mots de la fin, Anna, parce qu'il est 23h déjà ici à Paris.
Moi, j'ai une question. Maintenant que tu l'as, La Neige, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez introduit, mais c'est un film qui parle d'un fantasme sur un film ou qui imagine la venue d'un film. Et ce film, c'est le long métrage qu'on a commencé à tourner le mois dernier, enfin il y a quelques semaines, et donc cette neige, on l'a maintenant. Et qu'est-ce que t'en penses ?
Je suis contente.
La neige qui n'était pas forcément, qui n'est pas essentielle à toute l'histoire, mais pourtant qui est essentielle. C'est peut-être, on peut parler de cette espèce d'idée justement d'une espèce de point de fixation, c'est une petite partie du film en réalité.
Oui, c'est une petite partie du film, mais c'est...
C'est le début.
Desencadenante.
C'est l'élément déclencheur. Hmm.
Oui, pour que ces deux personnages restent dans, le même endroit. Donc c'était important pour l'histoire, mais aussi visuellement pour moi, c'était important à commencer avec une espèce de page blanche.
Oui.
Où le reste du film s'écrit.
Est-ce que tu peux parler de quelque chose dont on a parlé récemment parce qu'on a écrit la petite interview qui est publiée, qui est imprimée aujourd'hui. Mais je le disais très brièvement dans le texte, et peut-être que là tu peux en parler un peu plus, de ce rôle de l'autre dans l'élaboration du récit, ou ce récit qui est souvent dialogué. Peut-être que tu peux en parler par rapport au film et aussi par rapport au rapport de production, pour clore sur quelque chose qui est à la fois sur ton travail et sur la façon dont on travaille.
O sea, que hable de cómo las historias se generan
a través. Oui, mais je pense que tu peux aller plus, tu peux remonter à. Enfin, moi j'aime beaucoup quand tu parles de. Quand tu dis que beaucoup de tes films préférés sont en rapport au deuil, al duelo. Et que le deuil t'intéresse parce que c'est un moteur. Enfin, voilà, et en quoi ce deuil part. Non? Enfin, tu peux donner la réponse succincte où tu parles du récit à quatre mains, ou tu peux parler du récit en général et des situations qui l'explosent.
Oui. Je ne sais pas comment tu as fait la connexion avec le deuil. Mais.
Parce que je pense que je t'explique, parce que dans le film que tu prépares, les deux personnages, ils ont l'un par rapport à l'autre un rôle où leur survie dépend, où leur vie dans l'histoire du film dépend de l'autre. Et donc ils construisent l'un par rapport à l'autre leur identité tant que négociation. Et moi, ce qui m'a toujours frappée dans une phrase, une interview qu'on t'avait faite, où tu disais que ce qui se passe quand quelqu'un disparaît soudainement, c'est que ce qui disparaît, c'est l'identité propre. Et donc, je pense à l'identité dialoguée comme l'envers de cette disparition. C'est pour ça que je fais le rapport.
Ok. J'avais pas de questions plus faciles. Je commence par parler de le fait que dans le film que vous avez déjà maintenant vu, il y a un récit qui se construit avec des autres personnes. Donc il y a un jeu où je montre des images et une autre personne fait le récit à travers des images. Et peut-être c'est parce que je pense que on fait toujours les récits avec des autres, et que vous avez la question d'avant de si c'est le spectateur qui fait les films. Je crois que c'est toujours le spectateur qui fait les films, et quand ça manque, une personne avec qui tu as une relation intime, tu construis le récit ou ton identité à travers et avec cette personne-là, parce que je crois que cette personne découvre des choses de toi que tu ne connais pas. Et quand il y a une disparition de cette personne, c'est une partie du récit qui manque. Et ce manque ça devient comme un écran blanc, en fait, comme blanche.
Blanc.
Okay.
C'est comme une vide, c'est l'écran de projection parfaite. Parce que du coup, tu n'as pas une réponse, tu n'as pas un regard qui retourne, tu n'as pas une écoute, c'est toi toute seule. Donc, c'est toi qui dois inventer toujours le récit parce qu'il n'y a plus quelqu'un d'autre.
J'ai l'impression que dans la présence de ton acteur, performeur Nilo, il y a une espèce de qualité assez particulière qu'il a moi j'appellerais ça une forme de disponibilité, au sens qu'en fait c'est comme si il faisait des choses, mais il y avait de la place à l'intérieur de sa manière d'être, pour des projections, comme un espèce de corps qui va justement être, être actif, mais à un niveau qui laisse toujours un peu la possibilité qui est... Donc une forme de disponibilité, c'est un sentiment assez particulier, mais des gens produisent ça dans leur... Et je trouve qu'il a, il a cette forme de disponibilité où on peut... Il, comme s'il y a une identité qui était capable de laisser entrer d'autres identités dedans. Et je revoyais cette séquence que j'aime beaucoup où elle souffle de la fumée dans son nez. Tu sais, je vois aussi ça comme une manière de pouvoir remplir un personnage qui serait un espace disponible. Dont on pourrait remplir d'autres identités, quoi, comme une espèce, voilà, l'idée du corps un peu disponible, mm-hmm. comme un peu l'histoire d'amnésique au, dont on va leur raconter leur vie à eux, mm-hmm. pour les remplir de ce qui est déjà eux-mêmes, mais où il y a quelque chose qui a en tout cas une mm-hmm. forme de vacuité au sens presque, mm-hmm. voilà, c'est comme un espèce de vase. Mm-hmm.
Oui.
Et je trouve que il arrive à rendre ça. C'est un sentiment que j'ai eu sur plusieurs fois que je l'ai vu filmer. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a cette espèce, voilà, disponibilité que je trouve qu'il joue très. Même quand il joue de la batterie, on a l'impression que c'est la batterie qui joue de lui. Mm-hmm. Et donc, non, c'est quelque chose de, une forme d'agir, mais qui est très très disponible à ceux qui réagissent aussi.
Oui, j'ai jamais pensé à lui comme ça, avec ce mot de disponibilité. Pour moi, c'est. Et quand je filme quelqu'un, je veux, c'est toujours quelqu'un qui est pour moi un peu un mystère. Et c'est pour ça que je veux lui regarder. Mmh. Et moi, Nilo, je le connais très bien, mais aussi je ne le connais pas. Je ne sais jamais ce qu'il va faire. Et il n'est pas si expressif. Donc, mmh. tu peux projeter sur lui, mais je lui trouve toujours fascinant à regarder parce que je... Je sais qu'il est très vivant. Il a une imagination. Il fait toujours des choses que je n'attends pas. Oui. Mais au cinéma, je trouve que le moins que tu fais comme acteur, le mieux.
Oui.
Donc, précisément parce que tu fais beaucoup comme spectateur, tu projettes sur un visage, tu cherches de deviner. En fait... Je trouve que toutes les personnes sont un mystère. On ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce que. Donc, quand il y a trop d'explications, ça ne m'intéresse pas de regarder.
À la fois, lui, il introduit quand même beaucoup cette idée du jeu, comme ça, un peu presque. C'est un homme, mais qui a aussi. Qui arrive à tenir la question du petit garçon dans le corps de l'homme, comme s'il y a toutes les stratifications de la vie. Même quand je le vois toucher au tourne-disque ou quand. On retrouve quand même des gestes. Ça rejoint ce que tu parlais aussi, une forme presque de mémoire de gestes. Moi, je me disais bien cette expression qui dit, là, on a des souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Et là, c'est comme si c'était des gestes et tu dis, oh, tiens, ça, il m'a volé un geste que je faisais moi-même. Donc, on revoit à travers le corps de l'autre un geste qu'on pense nous appartenir. Et je trouve qu'il a quelque chose comme ça de rappeler dans des manières d'être, des choses notamment qui sont, je trouve, liées au jeu. Et à l'enfance, une espèce de, oui. espèce comme ça, de choses un peu limites, parce que son corps raconte encore autre chose. Quoi.
Merci. I've forgotten it. No. Non, mais ça m'intéresse beaucoup en fait de penser à ces comédiens, un peu comme Olivier disait juste avant, comme des instruments en fait. Et même juste là, dans ce film qu'on vient de voir, avec ces deux plans, avec les mains qui fait comme ça, ça me fait penser à des films de. De Robert Bresson, par exemple. Peut-être ça, c'est un peu simple. Mais et donc là, je me suis dit qu'en fait, Bresson, il a travaillé avec ce que lui, il appelait des modèles. Donc c'est vraiment en question d'avoir des corps qui peuvent être un peu, genre, quand même remplis, en fait, par les actions que toi, tu donnes. Et donc là, je pose la question sur si tu travailles aussi un peu avec... Oh, dans quelle manière ça peut entrer en fait dans les films de faire des improvisations en fait, juste dans cette espèce de continuation à penser les termes musicaux en fait comme des méthodes pour le cinéma par exemple. Parce qu'il y a aussi, enfin, j'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour qui m'avait parlé de Philippe Garrel. Et Philippe Garrel, parce que lui en fait, il travaille beaucoup avec des acteurs qui font des improvisations, sauf qu'il fait des répétitions avec eux. qui font les improvisations et après, c'est fixé. Donc, l'improvisation, ça devient une forme de notation, en fait. Et après, c'est noté et tu ne peux pas de tout changer ce que tu as déjà improvisé. Et je me demande si c'est un peu le même cas, peut-être, avec des scènes... je sais pas, peut-être même dans les deux films, en fait. Donc, juste le rapport entre, oui, improvisation et notation.
Beaucoup de fois, je fais des exercices pour les acteurs. So that they can. Comme ça.
Pour qu'ils puissent
faire quelque chose pour la première fois, en fait. Donc, c'est le jeu de les mains, un jeu, on fait les jeux. Les jeux avec les images, c'est, on l'a fait pour la première fois et c'est filmé. Et ce qu'Eni le fait comme ça, avec des sons qu'il écoute, c'est un exercice qu'on a fait pour la première fois. Et le film Esta Puerta, Esta Ventana, c'est aussi une improvisation. Avec des choses que j'avais préparées pour eux avant de son. Donc, dans ce cas, je mets Nilo dans des situations et il réagit. Presque jamais je lui dis ce qu'il doit faire. Donc, oui, c'est un peu bizarre. Je sais plus ou moins ce comment il va réagir, mais il me surprend toujours. Mais pour le long métrage, c'est différent. En fait, Nilo travaille comme je travaille comme ça avec lui, mais la comédienne, l'actrice, elle a un background du théâtre traditionnel. Donc, c'est très difficile de travailler avec Nilo et cette actrice-là, parce que l'actrice me dit. Mais explique-moi mon personnage, elle vient d'où, elle a quel âge, pourquoi elle arrive dans la maison. Elle veut beaucoup d'explications. Et Nilo, il préfère rien savoir. Il arrive, il dit, tu me dis où je dois marcher, ce que je dois faire, et ça suffit. Donc, le défi pour le film, c'est de trouver une façon du travail pour ces deux... façon d'être qui sont très très différents, mais l'idée du film c'est ça aussi, c'est travailler avec des gens qui ont une manière d'être, des personnages qui ont une manière d'être très différent, qu'il n'y a pas de consensus, pas de logique commun, et comment est-ce qu'on fait avec ça. Donc l'histoire du film rassemble les personnages que j'ai choisis.
Bonjour. J'ai le sentiment dans les deux films que j'ai vus qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent, qui est comme une recherche du dialogue, comme on l'a dit avant, entre les personnages, les spectateurs et l'artiste ou les personnes qui font le film, et qu'elle est souvent amenée ou mise en place par des éléments externes qui sont ailleurs. Enfin, qui n'ont pas le même temps que celui du rapport entre le film qui se fait, qui sont dans le premier des enregistrements, qui sont remis dans le présent et dans l'improvisation, qui sont dans le second des images, qui permettent d'échanger et qui permettent de discuter sur ce qui est en train de se faire. Et je me demande comment cette relation-là est amenée à utiliser des éléments externes, à les replacer à l'intérieur de... D'un échange et d'un dialogue qui fait le film. J'ai l'impression que c'est à la fois une stratégie, mais c'est aussi un prétexte qui permet de faire le film, mais aussi de faire plus. Enfin, c'est une manière, un moyen, mais qui est juste là pour amorcer quelque chose et qui va plus loin. Et je me demande si c'est pas aussi ce rapport qui existe entre le film qui parle du long métrage qu'elle va faire, c'est là aussi. Cette processus qui continue et qui s'enchevêtre et qui va encore plus loin, est-ce qu'il va du coup continuer à exister dans le prochain film? Est-ce que ça va ramener quelque chose?
Donc si le prochain film aura... C'est
ce principe-là d'amorce comme ça que tu utilises pour ce principe de construire des micro-situations qui vont actionner en fait des éléments narratifs. Est-ce que le long métrage continue à utiliser ce principe-là?
Oui, mais c'est plus difficile. Je crois que c'est plus difficile d'introduire ces éléments dans un film qui dure une heure et demie et qui a l'ambition d'être un film narratif. Donc, il y aura des situations quand même où les acteurs, où je mets les acteurs dans des situations précises et ils peuvent jouer dedans. Mais il y a aussi des scènes qui sont très scriptées, et qui sont écrites parce que le film maintient un arc narratif. Je ne sais pas, je m'explique très bien. C'est difficile pour moi le français.
Oui, je pense que c'est
ce que je veux dire.
C'est un film qui veut pas faire du méta cinématographique. Et donc, si quand tu conserves des éléments qu'on voit dans d'autres films, c'est en les transformant en éléments de fiction. Par exemple, je pense qu'il y aura effectivement un dialogue par rapport à ce qui va se passer. Les personnages seront amenés, eux, à décider ce qui se passe dans le film, mais ce ne sera jamais une conversation où il sera question ouvertement de ce qui va se passer dans le film. Je pense, par exemple, je vais donner un exemple concret, il y a un moment où un des personnages change de prénom. Et à ce moment-là, il se regarde, « Non, mais tu t'appelais comment ? Tu t'appelles... » Je pense qu'il y a... tu as trouvé des moyens de rendre dans l'univers strictement fictionnel des éléments qui interviennent dans d'autres films comme dans Bernier. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas, c'est un peu...
Oui, j'avais une autre question qui approfondit un peu celle-ci, je pense qu'il va dans le même sens. En fait, moi j'aime beaucoup ce film Bernier et je trouve qu'il a une très belle qualité. En même temps, on a l'impression que c'est qu'il y a un scénario extrêmement bien écrit, presque comme dans des très bons films de fiction où le scénario est super articulé. Et en même temps, il a la qualité des films presque de faits entre amis où il y a des très morcelés, très fragmentaires et très composites. Et je trouve que ces deux aspects fonctionnent hyper bien ensemble. Et je me demandais si ce type va déjà, comment t'as travaillé à l'écriture de ce film, simplement. Hein. Et du coup, si c'est une forme d'écriture qui va se retrouver dans le long métrage, ou si la partie plus, unie ou, du long métrage classique va prendre le dessus sur ça.
Oui, il y a des parts dans Vernier qui sont aussi très écrites. Les questions-réponses, par exemple, qu'on écoute en off. Et des autres qui sont complètement improvisées, comme les jeux, les images. Ça, c'est pas écrit, c'est pas du tout écrit, en fait. L'écriture, là, c'est le choix des images que je présente. Et dans les longs métrages, c'est un peu, c'est pareil, la question, c'est, il y a des éléments, des situations. Par exemple, je veux que l'actrice décrit la maison, mais qu'elle la décrit by heart, like from de mémoire.
De mémoire.
Et ça, c'est pas quelque chose que j'écris pour elle. Je demande, est-ce que tu peux décrire la maison de mémoire? On va enregistrer ça. Et ça fera partie de la narrative du film. Et il y a des autres choses qui sont écrites. Mais en fait, j'ai fait un autre film de fiction qui s'appelait Spinario, que toi, tu as vu. Et là, c'est pareil. Il y avait des choses que j'ai demandé à l'actrice de faire pour première fois. Je n'avais pas expliqué ce qu'on va faire. Et je lui dis, OK, maintenant, je voudrais que tu lis ça. Et elle lit ça pour première fois. Et il y a un exercice qu'elle fait avec une autre personne. Mais ça, c'est inserté dans la narrative. Et il y a des autres scènes qui sont très écrites. Et c'est comme une combination de ça. Et le long métrage sera comme ça.
Oui, j'ai l'impression qu'il reste cette dimension hétérogène qu'on a évoquée avec plusieurs questions. C'est où ça joue aussi sur un élément un peu central des questions des récits, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma, qui est vraiment de passer du personnage à la figure, quoi. Mm-hmm. La demande de la psychologie, ça va vraiment d'une culture du personnage au théâtre ou du personnage au cinéma. Et moi, je sais qu'avec beaucoup d'artistes, on a travaillé avec des comédiens qui viennent soit du théâtre ou du cinéma, il y a toujours une tension avec la demande de la psychologie. Mm-hmm. D'où je viens, qui je suis, pourquoi je fais cet acte-là, fais-le. Et en fait, ça, c'est intéressant, parce que je trouve que se joue peut-être le passage entre deux régimes de manière de faire du cinéma. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que le long-métrage qui arrive va essayer de maintenir à l'intérieur d'un seul film peut-être des personnages, des personnes qui sont inscrites dans des dispositifs de subjectivité différents. C'est-à-dire quelque chose de plus côté performative, la question du corps, la question du corps qu'agit, et puis une dimension plus psychologique. Mmh. Et que peut-être ce qui se heurte dans le film, c'est justement le fait que les personnages ne sont pas traités dans le même régime, et ce qui crée une forme de conflit, justement.
Mmh. Oui. Ça, c'était voulu... Enfin, peut-être tu peux en parler quand tu as fait le casting, ce contraste entre...
Oui, ça c'est fait exprès. C'est fait exprès par deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas de préjugés sur ça. Je trouve qu'il y a des acteurs qui travaillent avec la psychologie qui font un travail incroyable. Il y a des films avec des acteurs qui travaillent comme ça que j'adore. Mais je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça et ce n'est pas ma manière de travailler. Avec Nilo, on ne travaille pas comme ça. Mais c'est aussi c'est un intérêt pour moi de ne... Je crois que nous sommes trop confortables parfois de ne nous surround ourselves.
Nous entourer
avec des gens qui pensent comme nous. Ou qui fait comme nous, ou qui travaille avec la même logique que nous. Et je trouve que c'est un problème, ça. C'est un problème, on le voit dans ce qui se passe en Europe. Et you can see it from the tiniest situation to the biggest. Et dans le travail, une des choses que ça me un retour à l'idée de consensus qu'on a parlé avant. Et comment est-ce qu'on trouve la manière de faire convivre deux fois, de deux manières si différentes d'être ou de penser l'identité. Et pour moi, c'est une question intéressante de confronter dans un film. Même dans le tournage, on trouve que l'actrice est très différente comme Anna pense, comme je pense, comme Nilo pense, mais nous sommes tous ouverts à ça va, c'est pas un problème. Mais c'est comme travailler avec ça, ces différences-là.
Muy bien, il va être l'heure de. Ça, j'ai un tout petit peu d'espagnol que j'ai introduit. C'est vraiment, j'ai pas beaucoup plus que ça. Là, je suis à 90% de ce que je sais. Non, c'était pour vous remercier en tout cas toutes les deux. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi et bravo pour
ce film. Merci à vous. I feel very lonely in my applause.
Oula.
Merci.
Bon, ben là, du coup, alors, on a plus d'images. Mais merci beaucoup, Anna. Merci, Alex. Et à très bientôt pour la suite du film. Merci.